Rythme, indépendance, être vent, c'est savoir.
Les quenouilles,
les quenouilles.
Bonsoir à toutes, salut les quenouilles en studio.
Salut.
Salut.
Les cloches sonnent, alors qu'elles ont déjà sonné une première fois, mais c'est comme notre générique, on l'a passé deux fois parce qu'on voulait vraiment vous faire comprendre que c'est les quenouilles ce soir. Donc il y a Quenouille Margot avec Aliette, un peu à la technique.
Ah non, moi je fais pas la technique.
On a dit que tu pouvais le faire, Margot, ouais, elle a dit tu peux le faire avec moi.
Ouais, ouais. C'est vrai.
Enfin bon, c'est Margot qui est assise devant la table de mixage. Il y a Radio Rima, ouais. Quenouille Rima.
Une nouvelle onde.
Une nouvelle onde. Et moi-même, Quenouille Milady, on est sur Radio Panique 105.4 en direct et à la radio et sur les ondes internet. Et les quenouilles, on a vachement planché chacune ici et d'autres ailleurs sur le mot patin. Patin, patin. Donc voilà, on va commencer avec ce mot-là. On vous dira pas ce qu'on fait exactement en studio, mais vous allez entendre des chroniques de filles qui sont et dans le studio et ailleurs. Voilà, est-ce que Quenouille Margot, comme tu es et à la technique et contributrice, tu veux lancer ta petite chronique, s'il te plaît, Margot?
Oui, bien sûr.
Merci, Margot.
Alors, moi, j'ai préparé une chronique sur le mot patin. Et j'ai commencé à écrire l'histoire de mon premier patin. Et c'était assez déprimant comme souvenir, en fait, et dégueulasse. Et ça sentait la bave et le « il faut bien parce que tout le monde le fait » et les souvenirs de quand on a 14 ans. Et en fait, ça m'a un peu déprimée, c'était pas chouette. Donc j'ai arrêté, j'ai jeté le papier et à la poubelle, ça m'a fait du bien. Parce que se replonger dans l'adolescence, c'est pas toujours une très bonne idée.
Non.
Et puis, finalement, j'ai changé de cap et je me suis dit que moi, ce que je trouvais le plus beau dans le mot patin, c'était surtout la glace. Alors, je vais vous faire écouter un petit truc. Alors ce bruit chelou que vous avez entendu, un peu comme un laser, il a été enregistré dans le Jura, au lac d'Étival, un matin très froid par Boris Jolivet. Et c'est le bruit mystérieux qu'on entend l'hiver autour des lacs gelés. En fait, si vous voulez une explication technique, moi c'est pas ce qui m'intéressait le plus, mais je me suis dit que peut-être que les gens seraient contents de savoir. En fait, quand il y a une fluctuation de température qui amène la glace à s'étendre et à se contracter, le mouvement cause toutes sortes de fréquences, hautes et basses, et les vibrations bougent à travers la glace. Les hautes fréquences se déplacent plus vite que les basses fréquences et atteignent nos oreilles en premier. Et c'est cette différence de temps qui fait que le son émis ressemble à un claquement de fouet. Voilà, en fait, moi, par là où j'ai grandi, l'hiver, il y avait de la neige. Je mets ça au passé parce qu'il n'y en a plus toujours à chaque fois. Il y avait de la glace à la place de l'eau, il y avait du givre à foison et des grands ciels bleus. Et j'ai en moi l'amour de ces éléments-là. Quand le froid pique au fond de l'hiver, j'ai le cœur qui se réchauffe. Par là où j'ai grandi, l'hiver, les lacs, ils sont gelés. Ils font des sons incroyables et on peut marcher dessus les sons. Mais en fait, on marche pas parce que ça glisse, on patine. Je sais pas si vous avez déjà patiné sur un lac gelé, mais moi, je crois que c'est une des plus belles sensations que je connaisse. Il y a le soleil trop fort, le vent trop froid, le sourire qui fige, et puis surtout le doux bruit des patins qui filent sur la glace. Puis la chance d'être là en train de se sentir coulisser sur le lac. Du coup, j'ai eu envie de vous raconter cet amour-là. Et puis, c'est par ces sentiers tout froids que je suis arrivée par pensée dans le nord du Canada. Alors, je vais vous faire écouter un petit son que j'ai trouvé par hasard sur Internet. En cherchant par hasard, pas vraiment.
Oui, la route des vins, c'est Natacha. Bonjour à Patrick, bonjour à, aux autres. J'ai hâte de vous revoir, mais je vais continuer à voyager encore un peu. Je vous appelle Kupchak, puis je suis venue passer une semaine ici après être passée quelques temps à Standing Rock. Puis j'avais envie de vous dire que ça a été deux grands voyages extraordinaires à des températures de moins 40. Mais j'ai survécu parce que je pense que j'ai ça dans le sang. Il y a des gens qui se plaignent de l'hiver ou de la neige, ou des fois c'est peut-être Montréal avec sa slush, mais je veux dire, l'hiver dans le nord est complètement différent. La neige est lourde, elle est douce, elle est, je sais pas comment expliquer ça, c'est comme si l'air était plus sec aussi. Mais les Inuits, quand l'hiver arrive, on dit rien. On sait que ça existe et on sait que ça va revenir. C'est comme si on l'a tellement... C'est tellement imprégné dans notre métabolisme, sûrement à cause de la vie nomade, en hiver, en été, l'hiver dure 8 mois par année. On peut pas se plaindre, puis on sait que c'est un cycle des saisons, on sait que c'est un cycle de la nature, mais il y a tout ce que l'hiver amène avec lui aussi, de ses bons moments, puis qu'on veut partager un feu ou de la nourriture chaude. Puis j'avais envie donc de vous partager cette sensation-là de retrouvailles avec l'hiver que certains ont dans le sang. Donc, je vous dis à la prochaine, puis on se reparle de nos prochains voyages. À bientôt!
C'est tard dans la nuit que mes sœurs et mes frères combattent non seulement le froid, mais également les machines qui creusent dans la terre. Nous n'avons pas terminé d'écrire notre histoire dans le creux de la neige. À Cannonball ou à Kujuak, nous continuons à tourner les pages au travers de nos pas que l'on trace sur les routes glacées des plaines, et tandis que souffle le vent, nous écoutons parler les mystères d'autrefois. Je trace ma vie au fil de la blancheur et chaque matin, le peuple renaît pour saluer le soleil. J'ai peur, quelquefois, qu'à un moment, l'hiver ait raison de nous. Mais l'hiver est inscrit en notre sang. Nous n'avons pas peur. Nous avons survécu pendant des millénaires sur la ligne mince de la respiration. On connaît l'hiver par cœur et le cœur de l'hiver. À Kujuak ou Nunavik, les gants en fourrure doublés de phoques me sauvent les mains chaque jour de la congélation. Je redescends tous les matins et je n'ai pas froid aux mains, aux pieds, à la tête. Il n'y a que mes joues qui se glacent et qui rêvent encore de la froidure. C'est en retrouvant les bras de l'hiver après plusieurs années de non-présence, en retournant marcher dans mon enfance, à chaque fois que j'avance dans le froid, c'est à ce moment présent que mon cœur est plus chaud que jamais il ne l'a été depuis longtemps. Et si seulement... Autant de fois que l'hiver revient, je pouvais simplement déposer sur ma langue la chair du caribou pour me rappeler encore plus fort que je suis Inou. La neige, c'est de l'eau. Il y a du monde qui se tienne debout pour la garder claire, et la vision des humains aussi.
Désolée, il y a eu un petit bug à la fin du poème de Natacha Canapé-Fontaine. C'est vraiment dommage, mais on pourra mettre le lien sur le Facebook des Quenouilles. En fait, c'était d'abord la voix de Natacha Canapé-Fontaine qu'on a entendue, et puis ensuite on a entendu un morceau de ici Radio Canada, d'une émission, et on a entendu la voix de Mikhail Bielinski, qui en 2017 lisait un poème de Natacha Canapé-Fontaine. Cette poétesse, on me l'a présentée avec amour il y a une année. C'est une poétesse Inou. Je l'aime beaucoup. Au début, j'ai confondu, comme on les confond souvent, le peuple Inou avec le peuple Inuit. En fait, le peuple Inou, c'est un peuple autochtone de l'est de la péninsule du Québec-Labrador. Et j'ai confondu parce que les mots se ressemblent, parce que c'est loin, parce que les histoires de ces nations-là nous ont pas été contées. Parce que on est du côté colon de l'Atlantique, parce que, comme le dit la poétesse, les gens ne savent pas qu'ils et elles existent. Et c'est une grande injustice. Et en fait, la semaine dernière, j'ai rencontré Sarah. Et Sarah, elle m'a raconté pas mal de choses. Je l'ai croisée par hasard au milieu de mon travail. Et d'un coup, on s'est trouvé Natacha Canapé-Fontaine au milieu en commun. Je lui ai raconté mes chemins de pensée depuis les patins jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Et elle m'a appris quelques trucs. Sarah, elle est en train de préparer un documentaire qui a l'air passionnant sur son grand-oncle. Il était missionnaire et elle va essayer de parler du mal qu'il a fait là-bas chez les Innus. Et elle cherche à travers la poésie comment raconter la complexité de cette histoire dramatique et cette place où elle se trouve dans un mouvement qui la dépasse. Il y a plein de nations différentes dans cette région du Canada et il semblerait que dernièrement, ces dernières années, un mouvement féministe et décolonial plein d'espoir et puissance produit là-bas. Et moi, c'est une idée qui me réchauffe. Ça fait partie de ces chemins de pensée qui donnent envie de s'y perdre, de se renseigner, de se taire, puis d'écouter. Par exemple, je voulais vous faire écouter une chanson de Béatrice Dare, qui est inuite, elle, et qui s'appelle Imuta. Alors, ça ne fonctionne pas. Désolée.
On n'entendra pas. Tu veux encore essayer?
On passera après.
On fait autre chose, oui. Parce qu'on a tellement de choses à faire.
On passera peut-être après. Mais c'est bien que tu parles de Natacha Canapé-Fontaine. Et tu es en train de le chercher, Margot?
Ouais, je pense que grave. Maintenant, ça va marcher.
Ok, bah, essaye maintenant et puis...
Ok. Et non. Je ne sais pas ce qui se passe.
Ok, mais c'est pas grave, on peut enchaîner.
Ça y est, je sais ce qui se passe.
Alors,
Margot.
Ouais, désolée pour tous ces bugs techniques. Il y a eu plein de trucs en même temps. C'était un peu trop pour moi. Mais je pense qu'on a, on a bien entendu quand même le poème de Natacha Canapé Fontaine, moi, ouais. Enfin. Et c'est dommage.
Et du coup, une autre poétesse aussi, Inou, qui s'appelle Naomi Fontaine, qui a écrit un très très beau livre qui s'appelle Kwesipan. Kwesipan, je ne sais pas comment on prononce. Je ne suis pas tout à fait bilingue en Inou. Et du coup, c'est un très beau livre parce qu'en fait, Naomi Fontaine est une. Elle a fait des études du côté canadien, donc vraiment, elle est sortie de la réserve dans laquelle elle a vécu. Et elle est revenue dans la réserve et elle est prof de français. Et donc, ce livre parle de comment elle-même, elle a été colonisée à travers une langue qu'elle doit apporter. Parce qu'on sait très bien ce que ça fait la langue française, qu'elle véhicule toute une série de possibilités et de privilèges à un moment pour les gens qui veulent sortir de la réserve. Et c'est sa confrontation intime avec ce que c'est de porter deux langues en elle, deux possibilités, et de se retrouver confrontée avec des jeunes qui sont perdus par rapport à leur propre identité, etc. C'est un très beau livre. Il y a un film qui a été réalisé par la cinéaste Myriam Véraud, qui est sorti en 2019, mais je crois qu'il n'a pas fait beaucoup de temps dans les salles, évidemment, pour les raisons qu'on connaît. Et juste, on avait déjà passé dans les quenouilles une chanteuse de gorge inuite, elle, et que j'ai vue en concert plusieurs fois à Bruxelles d'ailleurs, qui s'appelle Tania Tagak, et elle est mariée derrière moi, donc on va lui dire son nom entier, voilà, Tania Tagak Gillis, qui est aussi assez facile à trouver sur les réseaux sociaux. Et il y a une très belle conférence TED, qu'on aime les conférences TED ou pas, on s'en fout, mais il y a 15 minutes d'elle où elle explique ce que c'est d'être une chanteuse de gorge au jour d'aujourd'hui et de parcourir le monde avec ça. Voilà, c'est super, super intéressant. Donc merci que nous, Margot, pour les lacs
et les contrées. Plein de chanteuses inuites et inuits en cherchant, et il y a vraiment plein de trucs super.
Ok, ben on va en mettre quelques-unes sur la page. Pendant que le marchand de glace est en bas et qu'il nous attend, mais on va pas descendre, on va continuer l'émission, ça va?
Ouais.
Moi, je rêve de faire une conférence TED. Voilà. Je vous le dis.
Bah, faisons une conférence TED quenouille. Enfin, tu vois, on est plusieurs.
Je vais me dire, ouais. Un de mes rêves à réaliser, mais toute seule, très ça bien. M'intéresse beaucoup moins qu'avec vous. On serait quand même top sur scène avec. Faut qu'on gère la technique aussi.
Ça va.
Ouais. Non, il y aura des gens qui vont essayer de gérer la technique. On va encore parler de patins. Du coup, je voulais tenter un petit son. Un petit son télévisuel, en fait. Je sais pas, vous vous souvenez de Souria Bonali? Moi, c'est un personnage de mon enfance. Ouais. Et aussi, ça, c'était la fenêtre, c'était le Velux de Radio Panique, qui fait aussi un son incroyable, un peu comme les lacs glacés. Et du coup, on va écouter un petit peu Souria Bonali.
Avant d'entamer ce tour d'Europe, une Europe qui doute, partons pour l'Extrême-Orient, pour le Japon. Notre Souria nationale a versé une larme. Elle espérait l'or au championnat du monde de patinage artistique. Elle n'a eu que l'argent et a montré son dépit avec un certain cran. François Cornet.
Souria vient d'entendre son nom. La marche de la médaille d'or est trop haute pour elle. Des larmes amères perlent dans ses yeux. Coup de théâtre. Au pied du podium, Souria refuse de monter sur la deuxième marche. L'officiel chargé de lui remettre la médaille d'argent est décontenancé. Les bravos de la foule se transforment en sifflets. Finalement, Souria fait contre mauvaise fortune bon cœur et accepte. L'incident est clos, ou presque. L'émotion, sans doute aussi la déception, l'emportent à nouveau. Souria ne gardera que 12 secondes au cou sa médaille d'argent. C'est alors que Yuka Sato, la belle patineuse japonaise, médaille d'or, vole au secours de Souria, qui timidement, comme si cette première marche de championne du monde lui était toujours interdite, essaie malgré tout de garder l'esprit sportif. Souria, une saute d'humeur à Shiba au Japon, mais les patineuses ont aussi un cœur, et il peut parfois être malheureux.
Voilà, un petit extrait de la télé française, ouais. À l'ancienne.
La bonne vieille télé française.
Ouais. Extraordinaire.
Voilà, et donc Souria qui estimait...
Not happy at all with her fourth place finish in the recent Olympics.
C'est reparti. Ce soir, ça patine un peu en technique.
Ça y est, c'est fait. Bon, bah, que nous, Yaliette et que nous, Rima, vous nous dites un peu ce que vous nous avez préparé.
Alors, c'était à moi de parler, et vous avez parlé, j'ai trouvé ça bien, parce que du coup, j'étais en train de chercher mes mots, et là, je sais exactement ce que je vais dire. Mais en fait, grâce à Marie, on a pu interviewer une patineuse, et c'était intense comme moment.
Qui n'est pas une patineuse.
Qui n'est pas qu'une patineuse, c'est pour ça que toi, tu vas nous expliquer un peu plus de quoi il s'agit, puisque dans l'interview, le mystère persiste.
On ne dévoile pas l'identité de l'invité mystère. Donc on va entendre Mélissa Pinon. Mélissa, c'est une amie que j'ai rencontrée il y a quelques temps, qui a débarqué à Bruxelles, qui est peintre, qui est prof de peinture aux Beaux-Arts à Paris. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait sur Internet, c'est super. Et Mélissa, en plus d'être peintre, fait du patinage artistique, c'est son hobby. Je ne sais pas, j'aime pas trop ce mot hobby.
Mais alors, en tout cas, moi, ce qui m'avait beaucoup impressionné, c'est que Mélissa, elle a une facilité à aborder des choses qui sont quand même pas évidentes, parce que le patinage artistique, c'est pas le truc qui a l'air le plus, comment on dit ça, facile à, tu vois, à pratiquer. Ouais. Et tout à coup, elle s'est lancée là-dedans et ça avait l'air d'être juste trop facile, quoi.
Oui, puis elle a vraiment un amour pour ça. C'est étonnant. Voilà.
C'est tout ce qu'on doit dire pour présenter
Mélissa.
Je pense
que c'est tout ce qu'on doit dire. Écoutez, et ensuite aller voir ses peintures. Et salut Mélissa, si tu nous écoutes.
Une de mes nièces qui avait 13 ans à l'époque et qui est venue. J'ai commencé un peu par hasard en emmenant une de mes nièces qui avait 13 ans à l'époque et qui est venue me rendre visite à Paris. Et j'ai cherché une animation, une activité à faire avec elle. Et un ami m'a conseillé la patinoire Payron. Donc je l'ai entraînée dans une séance publique, comme on dit. Et on a patiné entre plein de gamins.
Avec la minute de vitesse.
Non, il n'y avait pas ça, mais il y avait juste un monde de dingue qui allait dans tous les sens. Et j'avoue, maintenant que j'en fais un peu plus sérieusement, je ne vais jamais aux séances publiques. Bon, ça c'est... Voilà.
Donc quel plaisir tu retrouves là-dedans, et est-ce qu'il y a un rapport avec ton plaisir de peinture?
Alors, je pense que c'est des sensations, et c'est des sensations très très physiques, que j'ai pas en peignant. C'est complètement autre chose, la peinture... alors, il y a de la géométrie dans le patinage, c'est que de la géométrie. Tout se passe sur le cercle, on fait des cercles dans un sens, dans un autre... Il y a des directions, c'est la géométrie dans l'espace. Bon. Mais après, par rapport à mon travail, non, il y a la sensation physique de vitesse, de glissement, qui ne se retrouve pas du tout. Mais je pense que c'est aussi pour ça que c'est important pour moi. Ensuite, s'il y a quelque chose qui s'en rapproche aussi, c'est plus dans la pratique. Dans mon travail, je vais pouvoir recommencer des dizaines de fois une chose pour essayer
de trouver... Le fait de s'exercer.
C'est pas que de l'exercice, c'est de la pratique. Ça veut dire que c'est une pratique et il faut accepter de c'est un éternel recommencement et on sait jamais vraiment faire les choses. Et c'est un peu pareil. En tout cas, il faut être dans un état d'esprit... très particulier quand même, d'attention extrême. Et au moment où j'ai commencé à patiner, je pense que j'avais des petits soucis à ce niveau-là, où j'étais un peu stressée, anxieuse, et j'avais du mal à parfois à me concentrer dans mon travail.
Ça t'a aidé à te concentrer faire du patin pour la peinture?
Pas si ça m'a aidé à me concentrer, mais par contre de retrouver une pratique, une autre pratique, de me laisser porter dans cette pratique et de me relier à simplement d'apprendre à faire les choses, ça m'a permis d'être plus simple dans mon travail et de retrouver un plaisir de faire aussi.
Moi, je m'interroge sur la façon dont les gens réagissent quand tu leur annonces que tu fais du patinage artistique. On le voit pas parce qu'on est en radio, mais c'est surprenant quand on te rencontre d'un coup cette nouvelle du fait que tu fais du patin artistique, du patinage artistique. C'est pas quelque chose qu'on s'imagine venant de toi. Et du coup, je me demande comment les gens réagissent et quelles sont leurs, oui, quelles sont leurs réactions.
Alors, c'est en général, c'est plutôt, ils ont des petites étincelles dans les yeux. C'est le, ils ont tout. Je me rends compte que tout le monde, en fait, regarde le patinage artistique chez eux et que tout d'un coup, ils me l'avouent. C'était un plaisir un peu coupable et pas tellement de préjugés, en fait. C'est vrai, comme je fais de la peinture, bon, voilà, c'est assez inattendu. Les gens me voient pas forcément faire ça et du coup ça les fait plutôt rêver. Après, c'est vrai qu'il y a, bon voilà, c'est un sport qui entraîne pas mal de préjugés parce que c'est vrai la manière dont il est pratiqué en général, il est un peu, on va dire, suranné, un peu, voire ringard, alors qu'il y a plein de formes de patinage, en fait. Il y a du patinage libre, il y a du patinage on va dire contemporain, comme pourrait être la danse contemporaine. J'ai fait des séances comme ça, à me rouler dans la glace, faire des choses complètement inattendues. Et ça, on ne soupçonne pas, en fait. On voit, quand on pense patinage, c'est patinage artistique. Et dans le, après, il y a la danse aussi sur glace. Enfin bon, il y a plein de compartiments, de différentes. Je me perds un peu dans les termes, mais en tout cas, c'est une discipline très variée et très riche. Mais elle est artistique quand même, ça c'est important. Non, mais c'est vraiment un défouloir, je pense, pour moi. Et j'aime bien dire que c'est ma vocation ratée.
T'aurais aimé en
faire professionnellement ? Je pense que si j'avais pu en faire gamine. Alors, en fait, non, il y a une chose, c'est que je ne suis pas du tout l'esprit de compétition. Et alors, j'ai fait un peu de gym acrobatique quand j'étais ado et j'ai complètement boycotté une compétition. Alors, j'étais plutôt bonne en équilibre, je faisais la roue sur la poutre, des saltos, et par contre, pas du tout bonne dans les trucs plus physiques, les barbares, j'étais nulle. Mais bon, j'avais mes petits trucs et j'ai refusé de les compétitions. Et j'ai été harcelée par la prof. Bon, ça, tout ça pour dire que c'est vraiment pas mon truc, donc c'était, à mon avis, ça aurait été exclu. Mais par contre, j'aurais aimé commencer petite, parce que en fait, on s'en compte en commençant adulte. J'ai commencé à 38 ans, il y a des choses qu'on pourra jamais faire parce que c'est des muscles en fait qui sont formés et c'est une compréhension des mouvements. Voilà, il faut commencer petit. Après, moi, je m'amuse, ça m'empêche pas de m'amuser, de m'éclater.
Est-ce que t'en regardes du patinage ?
Mais pas tant que ça. Ça peut m'arriver. Alors là, je peux passer des heures et des heures à regarder les championnats, mais ça m'arrive peut-être une fois par an. Mais j'adore ça. C'est juste complètement fascinant d'aller voir tournoyer, faire des trucs dont je suis absolument incapable de faire. Mais
à quoi ça ressemble un entraînement de patin ?
On reprend à chaque fois les bases. Je pense que c'est pour ça que je faisais le lien avec ma propre pratique, c'est que on va reprendre des, par exemple, ce qu'on appelle les croisés sur un cercle, et on va s'échauffer en fait en faisant des figures très simples. On appelle les quarts, en fait. Donc il faut maîtriser ces quarts et ça, il faut les refaire. Si on patine une heure et demie, il y a bien une demi-heure de reprise comme ça des fondamentaux. Voilà. Puis après, il y a toutes les figures. Mais bon, moi, je suis très modeste. Hein. Je fais quelques pirouettes, mais c'est toujours à recommencer. Je suis pas. Mais bon, ça m'amuse parce que. Je crois que ce que je trouve fascinant, c'est qu'il y a des choses, et justement, je peux voir en fait des patineurs pros sur la glace qui vont faire des trucs incroyables, et je me dis, oh, jamais j'y arriverai. Et puis en fait, évidemment, j'arrive pas à leur niveau, mais en s'entraînant vraiment, on arrive toujours à quelque chose. et toujours à progresser un peu et à et ça c'est génial quoi.
Alors on avait aussi parlé de la peur. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la peur, le fait de ne pas avoir peur ou d'avoir peur par rapport au patin? Parce que moi, finalement, c'est cette donnée-là qui ferait que je ne vais jamais me lancer dans le patin de manière poussée. J'en ai fait un peu, mais ça me fait peur, tu vois, d'essayer des choses.
Alors, je crois que justement, la peur de tomber, les enfants l'ont beaucoup moins. Et donc, la problématique, quand on fait ce sport adulte, quand on commence à l'apprendre adulte, c'est qu'on a trop peur. Mais c'est normal parce qu'on sait que ça fait mal de tomber. Et on est plus grand aussi, on n'a pas le même centre de gravité, on est plus haut. Et donc du coup, tomber, on risque beaucoup plus, étant adulte, à tomber. Après, je pense que justement, psychologiquement, et je sais que pour moi, quand j'ai commencé à patiner, à prendre sérieusement à patiner, c'est un moment où j'étais plutôt très anxieuse. Et il y avait certaines choses dans ma vie, j'avais l'impression que jamais j'arriverais à dépasser. Et en fait, de patiner, et justement d'arriver à me dépasser moi-même en patinant, et justement à. Alors, la peur, moi, j'ai la chance, j'ai pas beaucoup peur, et je pense que le désir de patiner va, en tout cas, au-delà de la crainte. Après, évidemment, j'aime pas tomber, et j'ai aussi un peu peur, je suis pas non plus complètement casse-cou, mais en tout cas, j'ai pas très peur pour une adulte, mais c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, ça m'a permis de dépasser aussi des angoisses. Que j'avais dans ma vie d'un point de vue complètement autre.
Un souvenir de patin.
Alors peut-être quand je me suis cassé la cheville.
Alors raconte-nous ça.
Ouais, non, c'est vrai que c'était quand même la veille, une petite fille avec qui j'avais été patiner quelque temps avant me demandait « Ah, tu t'es jamais rien cassé ?» Et moi j'ai dit « Non, jamais. » Et en fait, le lendemain, le 8 mai, le jour de l'élection de notre président En Marche, ben je me suis cassé la cheville. Donc je n'ai plus marché pendant 6 semaines. Bon, la date pour moi était importante. Et voilà. Et c'était une chute assez étrange parce que je faisais ce qu'on appelle un saut de boucle. C'est un saut que j'aime pas du tout. Et puis et il se fait que j'ai cassé ma cheville, mais en étant en l'air. Donc, et ça m'a pas fait mal, j'ai rien senti. Mais c'est vrai que ça marque quand même un petit peu la pratique parce que donc, j'avais pas tellement peur avant et j'ai eu un peu plus. Et puis j'ai vraiment cru que j'allais jamais retrouver le patinage que j'avais avant. Puis en fait, ça se retrouve, on regagne les choses. Mais bon, après, des souvenirs. Il y en a plein. J'ai aussi fait un gala. On m'a embarqué dans un gala. Voilà, un club. Et j'ai appris la chorégraphie en à peu près une heure et demie. Et j'ai réussi à le faire. Mais ça, c'était très drôle.
Est-ce que tu as déjà roulé un patin en patin?
Eh bien, non. Ça, je vais vous décevoir. J'ai pas du tout. Ouais, en fait, j'ai pas fait de patinage pour draguer. C'est une voie. C'est vrai que je crois que les jeunes le font beaucoup, mais non. J'ai croisé un magnifique patineur une fois, mais non, j'ai pas conclu.
Dans mon dictionnaire usé, la définition du baiser. Ceux qui ont écrit ça font de la peine. Braves gens, je vais vous dire la mienne. Car un baiser, c'est du fuego, c'est pas de la baffe d'escargot. Et les vieux schnocks d'académie devaient encore être endormis. Y'a le baiser fourbu et flabby. La langue qui traîne jusqu'à terre, comme un spaghetti ramolli. Le baiser qui fait courir tout Paris, le baiser saignant et garni, avec un steak frit, une serviette, et le service y compris. Il y a aussi le baiser tirelire qui est certainement le plus rigolo. Accroupi la langue dehors, les narines pincées et les miches dans l'eau. Il y a le baiser russe, inconnu chez les aristos, la langue repliée en faucille et l'autre tendue en marteau. Le baiser compétition argentin, en dansant roulé un patin, les lèvres soudées, le souffle court. Un chronomètre à la main.
Et puis il y a le baiser de Zézette,
Le plus salé, le plus sucré, c'est le plus chouette. On dirait un chausson aux pommes. Langue de velours, palais d'amour, on la surnomme. Je l'aime. Elle m'aime. Y a le baiser hurleur inédit, allongé tout nu sous la pluie, dans un champ d'ortie à minuit. Y a aussi le baiser du ruminant, le baiser du flic menaçant, la langue chargée jusqu'aux dents d'un kilo de parmesan. Y a aussi le baiser de tricot très difficile et très pervers, avec les langues nouées, papille à l'endroit, papille à l'envers. Y a le marocain, la langue roulée en pois chiche, un chameau carré sous les miches. Et un petit nombril bout en train. Il y a le baiser mystique, hypocrite. Les lèvres mouillées.
Bon, en coulisses, on se demandait qui parmi les quenouilles a choisi Pierre Perret. Enfin, Pierre Perret, on n'est pas contre, hein, c'est juste que la quenouille qui a mis ça dans notre document de travail se dénonce qu'elle appelle le studio tout de suite. Voilà, donc c'était le baiser, moitié baiser, moitié zizi de Pierre Perret, choisi par une quenouille qui a priori a trouvé ça super.
Elle disparu.
Ouais. Voilà. Pardon. Mais donc voilà, mais parce que nous sommes une bande de filles super drôles en fait. Voilà. Bon, du coup, je vais lire un texte qui est pas de moi, dit Quenouille Milady. Je vais lire, parce qu'on ne sait jamais, quand on dit moi, c'est comme à la sonnette, quand tu dis c'est moi, tu ne sais pas qui c'est. Donc, je vais lire un texte écrit par Quenouille Christine, qui nous écoute, j'en suis sûre, en direct de la principauté de Liège. Maintenant, vous comprenez pourquoi je vous ai demandé si Liège, c'était une principauté?
Enfin!
Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi? Alors voilà, Christine, je vais lire ton texte. 1980. J'ai 8 ou 10 ans et je rêve d'avoir des patins à roulettes. Joël, Martine, Laurence, toutes les filles de la rue en ont. Le même modèle, à l'ancienne, en cuir rouge, d'avant les rollers. Tu poses ton pied sur une base en métal, réglable en longueur par son centre. Tu cales le talon de ta chaussure dans la coque arrière en même temps que tu glisses la pointe entre les deux pattes avant, qui s'ajustent l'une à l'autre avec des lacets, et tu boucles une lanière par-dessus ta cheville. Il faut bien serrer, mais pas trop non plus. Je veux des patins. Mais mon père ne veut pas. Il dit que c'est trop dangereux. Il prédit qu'à tous les coups, je vais me casser une jambe. Pendant tout le mois de juillet, je roule donc sur les patins de Joël, avec qui je me suis liée de manière un peu hypocrite et très opportuniste cet été-là. Précisément parce qu'elle prête volontiers ses patins. Au bout du compte, et puisque malgré son refus de m'en acheter, je passe quand même toutes mes journées de vacances à patiner dans la rue de la Cité, avec ce Joël donc, mon père, début août, pour mon anniversaire, m'emmène au super hyper marché et m'achète des patins. Évidemment, une semaine plus tard, je suis à l'hôpital avec une fracture déplacée du cubitus. Je le savais, conclut mon père, qui remit définitivement mes patins tout neufs à la cave. Interdiction totale, définitive et menaçante de remonter dessus. Et qu'ils ne me prennent pas à emprunter ceux de quelqu'un d'autre. Ils y resteront dans la cave, ces patins, jusqu'à mon départ de la maison 10 ans plus tard. Pendant ces 10 ans, à chaque fois qu'on m'enverra à la cave pour chercher des patates dans la réserve ou des oignons, je les verrai, là, dans le coin, mis à la taille de ma pointure, un 32 ou un 34 de l'été 80. Ce qui est fou, c'est que ce goût de trop peu, je n'ai pas eu mon compte de patinage dans la vie, je l'ai encore aujourd'hui. Et ce qui est fou, c'est que les 3 premières choses que j'ai faites quand je suis partie de la maison ont été dans cet ordre-là. Porter plainte contre mon père pour coups et blessures, séquestration et menaces de mort. 2. Fumer ma première cigarette. 3. Acheter dans une brocante une paire de patins à roulettes en cuir rouge, sur lequel j'ai passé à 20 ans ma toute première journée de meuf libre.
avec la langue. Ouais, c'était la première fois avec la langue. Alors j'ai fait ça de façon un peu étrange, hein, c'est vrai, puisque j'ai profité d'un jeu à la cour de récréation. Bon, je ne dois pas être la première à profiter d'un jeu, mais peut-être le fait que c'était, voilà, c'était bisou baf dans la cour de récréation, 6e primaire, j'avais donc 11-12 ans. À cet âge-là, on ne joue plus tellement à bisou baf. Hein, vous savez, c'est ce touche-touche où, bah, quand on touche l'autre, je crois qu'on lui demande bisou baf et l'autre répond, soit il veut un bisou, soit il veut une baffe. En général, on prend la baffe, évidemment, parce que vraiment, ça serait trop dégueu de se faire un bisou. Et puis là, bah, moi, je sais pas, j'ai pris ça comme excuse et on a fait bisou. Alors c'était peut-être même, vous savez, il y a des variantes bleu, blanc, rouge, bisou dans le cou, bisou sur la joue, bisou avec la langue. Enfin, je sais pas. Bref, en tout cas, moi, voilà, c'était ma première expérience de bisous, alors comment on appelle ça, moi, un canard, enfin bref, palo, quoi, avec la langue. Et vraiment, vraiment, je crois que c'était de la pure curiosité de, bah tiens, qu'est-ce que c'est? Et du coup, bah alors ça fait évidemment événement, quoi, attroupement, tous les enfants dans la cour qui venaient voir le gars et la fille qui se roulaient des pelles. Donc ça devenait l'attraction. Et donc évidemment, ils sont venus voir aussi les profs, là, qui gardaient la récréation. Et alors après, mais alors ça a été le lynchage public. Enfin, c'est le souvenir que ça m'a laissé, mais vraiment, ouais, j'ai l'impression d'avoir été traînée dans la boue. Très étrange. Alors lui, pas tant que ça, il me semble. Bon, alors j'ai peut-être pas vu de son côté, mais bon, il était déjà de toute façon un peu genre dernier de classe, un peu déjà classé dans les voyous, donc peut-être que c'était de toute façon trop tard pour le récupérer. Quelle horreur. Mais bon, voilà, je sais pas. En tout cas, moi, bah voilà, petite quoi. Troisième de classe qui fait pas de vagues, surtout pas se faire remarquer, élève moyenne, voilà, bien sage comme il faut. Ah bah alors là, tout à coup, j'étais une traînée, quoi. J'étais pointée du doigt. Alors c'est vous, le monstre, genre. C'était dingue, quoi. Je me souviens de 3-4 profs comme ça. La prof de morale, pendant une heure, tout le cours de morale, bah, à me faire la morale, hein. Bon, en même temps, c'est logique. Mon Dieu. Oh là là. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils racontaient. Ça m'a pas laissé une marque. Qu'est-ce qu'ils ont bien trouvé à me reprocher? C'était quoi? Oui, alors c'était sans doute le fait de le faire en public. Je sais pas. Pas à l'école, pas devant les autres. Bon, c'est sûr que c'était particulier, hein. D'accord que moi, j'étais pas très émoustillée. J'ai d'ailleurs absolument pas de souvenir du baiser en lui-même, qui devait être en mode car wash. On tourne la langue pour voir un peu ce que ça fait, on en fout partout, c'est dégueulasse. Ça m'a pas du tout laissé un souvenir mémorable, mais bon, voilà, de là, le stigmatiser, moi j'ai un souvenir, mais d'une honte, l'horreur, quoi. Alors que bon, ça aurait pu être l'occasion, je sais pas, moi, d'en parler tous ensemble, de se dire, tiens, les baisers c'est quoi, l'amour c'est quoi, est-ce qu'on fait ça n'importe où, n'importe comment, est-ce qu'il faut des sentiments? Est-ce que je sais pas, moi, parce qu'en effet, moi, c'est sûr que j'étais pas dans le sentiment. Là, j'étais vraiment en mode exploratrice. Enfin, je sais pas, c'est un super sujet pour des ados, là, des pré-ados qui sont tous en train de chauffer, en train de se demander c'est quoi, qu'est-ce qu'on leur réserve là, tout le monde leur vend le prince charmant et compagnie. Bon, bah là, c'était un peu, bah ok, moi j'en ai ras-le-bol de rêver du prince charmant, je passe à l'acte et bon, pourquoi pas hein. Dans ce cadre, voilà, pas du tout romantique en effet, mais ah, oh, je sais pas, mais là vraiment, je me dis, ils ont raté une occasion de se taire, ou d'en faire quelque chose, non, d'en parler, mais d'en parler intelligemment, quoi. Et donc, petite dédicace à Xavier Leporello, dont je n'ai absolument plus de nouvelles depuis, près de 30 ans. J'exagère. Mais, ouais, bah, écoute, c'était mon premier acte, je vais pas dire, quoi, pas révolté, mais voilà, hors des clous, apparemment. En tout cas, je me suis bien fait catégoriser. Ah, j'avais enfreint, je sais pas quelle règle, mais peut-être j'étais trop jeune, je sais pas. C'était. Oui, c'est vraiment ça, quoi. Mais non, mais enfin, on fait pas ça à 11 ans, à cour de récréation, nanana. Bon, bref. Voilà, je suis très fière aujourd'hui. Je me dis, tiens, je vais me réapproprier cette histoire. C'est mon premier acte punk. Et merci, les quenouilles.
Alors voilà, c'était Roxane Quenouille qui nous raconte son premier patin. Merci Roxane. Et oui, mais en fait, on s'était dit qu'on allait écrire nos premiers patins. Et moi, je me suis dit, ok, je vais le faire. Je suis trop motivée, quoi. C'est quand même un sujet brûlant ou glaçant, je sais pas. Et du coup,
malaisant.
J'ai essayé, mais c'est vrai que j'ai fait plus de roller que de patins. Moi, je suis une femme à roller plus qu'à patins. Et surtout, j'ai connu trop d'heures en roue libre. Alors, j'ai pas vraiment réussi à raconter mon premier patin. C'est plus ça que je vais vous raconter. Parce que je me suis vraiment concentrée et je me suis rendu compte que j'aimerais mourir avec un patin dans la bouche. Pas une lame, mais une langue. J'ai la mémoire du goût. et du patin, du goût du patin. Donc moi aussi je fais ma confession ce soir. Je vais pas vous dire que j'ai patiné plus que vous. Si ça se trouve c'était moins, mais j'ai appris le roller en un clin d'œil. Le bitume m'appelait et bon, j'avais cette impression un peu trop assurée que je maîtrisais la situation. J'ai patiné le plus possible et sur toutes sortes de surfaces. Patiné au cinéma la première fois. J'étais pas de glace, hein, je te jure. Je crois qu'on était allé voir Le Grand Bleu et ça patinait sec. Je n'ai rien vu du film. Et le gars s'appelait Xavier aussi. Je crois que c'était vraiment la mode d'Xavier parce que j'ai entendu que c'est Roxane, le même. Voilà. Oh. Après d'autres patins avec un autre Xavier, en fait, que j'aimais mieux parce qu'il avait les yeux gris. Le premier était pas champion olympique, mais en patin, tu vois, comme en tant de choses, je suis pas difficile. Il était gentil. Je ne peux pas résister à un gentil patineur. Je sais bien que côté souvenir, les heures à la patinoire risquent de te sembler monotones. J'ai souvent patiné seule et je m'ennuyais jamais. Patine, mais patine bien. Bon, ben voilà, moi je suis pas Mélissa, elle fait des figures, elle nous dit que c'est super facile, alors que bon, on se retrouverait le derrière sur la glace si on essayait. Ça, c'est sûr. Et comment faire pour que la performance soit inoubliable? Alors moi, j'ai quelques contextes pour ça. Le patin avec le garçon qui allait mourir. Je vous jure, les filles, moment d'éternité. Le patin dans la nuit. Le patin dans les greniers du lycée avec l'assistant d'anglais. Le patin avec ton pote. Et bon, c'est parce que les désirés sont pas au rendez-vous, mais faut bien s'occuper. Le patin du mariage, quand tu te dis « Dieu m'a donné la foi et une robe blanche et je joue le rôle à la perfection ». Le patin caché dans les froufrous des journées trou du cul. J'ai patiné le jour, j'ai patiné la nuit, j'ai eu mal aux pieds et au cœur souvent. À bout de souffle je fus, en bout de course. Et quand je t'embrasse pour la première fois, j'ai peur de ce qu'il y a dans ta bouche. Je sais pas ce que ça vous fait, tu regardes cette bouche et tu dis qu'est-ce qui va se passer, quoi. Une langue qui va s'enrouler comment? Et puis, j'aime les patins au ralenti, les huit à l'infini, les saltos mordus, les surplaces avant la course, les compétitions de parfait dosage entre la salive et le plaisir. J'ai patiné à travers les âges, je peux le dire aujourd'hui, j'ai même des lunettes pour lire ce texte. Et la glace s'est rayée, fendue par les écarts toujours plus grands entre le premier coup de patin et le dernier qui, bien souvent, est expédié. J'ai patiné et j'ai cru que la patinoire allait fermer. J'ai dit qu'il fallait se faire une raison. Je sais qu'il faut la jambe assurée pour patiner, la langue un peu déliée. Je sais que l'entraînement n'est pas tout. La chance glisse et te fout à terre si tu fais pas gaffe. Alors tu doutes et tu dis « le patin, c'est fini ». Je comprends. Mais Yolande, 96 ans, patine encore, la coquine. Et toi aussi, si tu veux.
Eh ben, que nous, Yolande.
J'ai l'impression qu'on n'entendra pas Yolande. C'est triste, mais donc, Yolande, elle est en fauteuil roulant et elle est sur la glace à 96 ans et elle s'éclate. Alors, elle n'est pas
dans son fauteuil roulant et surtout elle bien amitouflée dans une grosse couverture rouge. Yolande, 96 ans, enchaîne les tours de piste poussée par une jeune patineuse. Elle a le sourire, Yolande, même si la séance la fatigue un peu.
Oh, vous savez, ça nous amuse. Là, on est en souplesse sur la glace. Mais on se sent perdu. C'est-à-dire que ça va vite.
Vous êtes prête à y retourner?
On verra. On verra.
Finalement, Yolande va y retourner, séduite par les sensations de glisse qu'elle éprouve pour la première fois. Et c'est justement ça, faire découvrir de nouvelles sensations aux résidents qui plaît à François. Il est animateur à la maison de retraite de la Durance. C'est lui qui encadre la sortie.
En fait, ils ne connaissent pas trop ce que c'est une patinoire, la glace, tout ça, ils n'ont pas connu. Beaucoup viennent d'un monde rural quand même, donc du coup, c'était pas trop... Donc on a trouvé l'idée intéressante, puis comme notre maison de retraite l'avait déjà fait, on avait dit, ben, pourquoi pas nous aussi.
Et si l'expérience se révèle concluante, la maison de retraite de la Durance organisera ce type de sortie deux fois par an.
Je pense que j'avais 13 ou 14 ans. Quelque chose comme ça. Et donc, ce fut mon premier patin. Parce qu'avant ça, il y avait des garçons que j'aimais bien, qui étaient amoureux de moi, qui me faisaient des déclarations ou que je regardais du coin de l'œil, mais sauf que j'avais hyper peur. il fallait rouler une pelle et ça me faisait vraiment beaucoup trop peur. Et du coup, déjà à 11 ans, il y avait un garçon, mon voisin, avec qui j'étais tout le temps que j'aimais bien, mais je refusais toutes ces avances juste parce que l'idée de se rouler une pelle, d'avoir nos langues qui se frottent, je trouvais ça complètement dégueulasse et ça me traumatisait. J'avais déjà très peur de mal faire. Et donc, après toutes mes copines, j'étais la seule qui avait vraiment jamais roulé de patin. Et il y avait souvent des booms, il y avait plein de fêtes dans mon quartier. C'était toujours des enjeux pas possibles, qui allaient venir, quelle bande, parce qu'il y avait un peu des histoires de bande et tout ça. Il n'y avait pas toujours les gens qu'on connaissait. Et puis on attendait les beaux gosses du quartier et tout ça, ceux qui, un peu les caïds, quoi. Et je crois que je me rappelle de cette fête. Donc je devais voilà, avoir 14 ans, c'était la fin du collège en France. Et en fait, on s'était évidemment hyper apprêtés avec mes copines et tout ça. C'était le printemps, je me souviens, parce qu'on y allait, on n'était pas très couvertes. J'avais pas de but ni d'intention particulière. Et on arrive, et la soirée commence, et il y avait un peu des gens qu'on connaissait pas trop. Et en fait, là, vient me voir un type qui, par ailleurs, est devenu un ami à moi, qu'on appellera F. Et qui commence à venir me discuter, me parler. Il avait un an de plus que nous et c'était un peu une star. C'était un Italien comme ça, un peu beau gosse et tout ça. Donc tous, on voyait très bien qui, tout on voyait très bien qui c'était. Et en fait, mais moi je le connaissais pas très bien. Il est venu parler avec moi, donc déjà il y avait un peu le facteur intimidation. Il commence à venir discuter avec moi pour arranger un coup, comme on disait, avec son pote que je connaissais pas du tout parce que pour le coup il traînait pas. C'était le mec d'une cité, de la troisième cité après la mienne. Donc c'était vraiment. C'était un peu celle où je connaissais vraiment personne. On n'était pas dans le même collège ni rien. Et en fait, c'était des jumeaux. Et il s'appelait, je ne me rappelle plus, mais celui en question s'appelait Stéphane Bonis. Je m'en rappelle, si tu m'entends. Et en fait, il a passé toute la soirée, donc F, cette personne en question, a passé toute la soirée à essayer de me convaincre de sortir avec son pote Stéphane Bonis, que je n'avais jamais vu de ma vie. Et j'étais là, non, en fait, je le connais pas ce type, je sais pas qui c'est, je m'en fous et je dansais un peu. Mais faut savoir que mon ami F est quelqu'un de très entêté, d'insupportablement insistant et vraiment à l'usure, il venait me voir, il me disait. Et j'ai fini par me dire, en fait, je connais pas ce type, je m'en fous, mais c'est l'occasion rêvée, quoi. Je vais rouler une pelle à un type dont je n'ai rien à faire, que je ne connais pas, mais au moins ça sera fait et j'en serai débarrassée et j'aurai la pression en moins. Et donc, j'ai fini par dire oui, vraiment à l'usure, sous la pression, mais en me disant, bon, d'une certaine manière, ça sera une bonne chose de faite. Donc, on peut trouver ça un peu triste, mais finalement, c'était une opportunité comme une autre. Et à un moment, la soirée bien avancée, donc c'était arrangé, j'allais sortir, il y avait un genre de petite terrasse, mais c'était pas vraiment une terrasse parce que c'était un rez-de-chaussée. Donc, en fait, c'était vraiment une espèce de fond de cour avec des petits graviers, un peu de fenêtres, un peu de puits de lumière, quoi. Et j'attendais là, et donc arrive ce type, Stéphane Bonis, que j'avais juste vu de loin pendant cette soirée pour la première fois de ma vie. Et je sais même pas si on s'est parlé, c'est même pas sûr. Et là, il a mis sa grosse langue râpeuse dans ma bouche, hyper sèche. Je pense qu'il avait fumé 40 000 pétards, donc il avait vraiment la bouche toute sèche comme ça. J'avais l'impression de lécher une barrette de shit. Avec en même temps une espèce de saveur noix de coco. Donc, je sais pas s'il avait pris un chewing-gum ou je sais pas si c'était noix de coco, mais un truc un peu exotique. Donc, un mélange entre le shit et les arômes artificiels. Et vraiment avec une espèce de zéro sensualité. C'était vraiment genre comme dans les films d'ados qui disent qu'il faut rouler une langue, les langues l'une contre l'autre. C'était vraiment affreux. Et après, j'ai dit bon, allez, salut. Et je suis sortie de là. C'était dégueulasse et en même temps, j'étais un peu soulagée. Je m'étais dit, bon, ça, au moins, c'est fait. Et j'ai disparu. Je pense que je suis rentrée chez moi ou je sais pas ce que j'ai fait. Je me rappelle pas de la suite de la soirée. Mais je sais qu'après, j'ai pas été très sympa parce que j'ai plus jamais voulu revoir le type. Et pendant des jours, donc mon ami F et ce type sont revenus sonner chez moi et lui attendait tout au bout de la rue parce qu'on avait vraiment une vie de quartier comme ça. Et F essayait de me convaincre de revenir parce que je devais sortir avec lui et j'étais pas du tout intéressée. Et j'ai fini par passer tout un tas de soirées à parler avec mon ami, avec l'autre qui attendait au bout de la rue parce qu'il voulait voir s'il allait se passer quelque chose. Et je pense que je l'ai plus ou moins jamais revu.
Mmh. Je suis allée chez le docteur, il m'a fait de tout. Examen, test, vérification, patin, couffin, comme disait ma grand-mère.
Et les quenouilles, le saviez-vous?
Patin, couffin signifie etc. et patati et patata. Il semble ne pas exister d'explication certaine sur l'étymologie de cette expression qui nous vient du sud de la France, selon certains de l'occitan patin et couffin, et qui est très employée en Provence, aussi bien en français qu'en provençal. Au début du 19e siècle, le patin désignait une pantoufle, un vieux chiffon ou bien un véritable patin de ceux qu'on utilisait pour ne pas rayer les parquets. Quant au couffin, c'était la corbeille munie d'anse qui servait également de berceau. L'explication proposée ici nous vient de Philippe Blanchet dans son « Zouboulégan » publié en 2000. Elle repose sur la réputation de bavardage futile que les hommes font aux femmes parce qu'elles ne causeraient entre elles que de choses aussi peu intéressantes que les problèmes ménagers, d'où le patin, et de ceux liés à leur progéniture, d'où le couffin. Le patin-couffin, rajouté à la suite d'une phrase ou d'une énumération, indiquerait qu'il n'est pas utile de la compléter parce que la suite présenterait autant d'intérêt qu'une conversation féminine.
Et les quenouilles, on retombe le stigmate? Ce serait quoi le patin couffin de 2021?
Ouais, le défi, merci quenouille Valentine, le patin couffin. Alors les quenouilles, Margot, puisque tu fais rien à la technique.
Alors, il faut que je réfléchisse deux secondes.
Bah, le gel masque.
Peut-être foot poil.
Quoi? Foot poil.
Ou foot nichon. Bah moi j'ai compris.
Ou foot?
Foot, comme le football. Bah j'essaye de trouver deux trucs qui sont de la futilité de conversation masculine.
Ah ouais, ouais, ouais.
Du coup, bah il parle pas si souvent de poils, mais le foot ça marche, je pense.
Il parle de bière, non, d'anciennes soirées.
Il parle du fait qu'on devrait pas avoir de poils, ça c'est peut-être ça qu'on devrait dire.
Foot épilation.
Ouais. Allez.
Faut que ça sonne quoi à la fin d'une phrase.
Moi j'ai envie de dire thune bagnole, mais c'est trop. C'est trop en même temps bon.
Ouais, je connais plein de mecs qui parlent jamais ni de thune ni de bagnole. Hein.
Non, pas de thune, même quand ils en ont pas.
Ah non.
Non, on n'a pas les mêmes fréquentations.
Parce que je connais, ils parlent de bière et de sorties.
Ah ouais.